à proclamer ta grandeur. Alors inspire le Seigneur et qu'il nous révèle encore de ta grandeur, de ta beauté et de ton amour. Amen.
Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ah, il y en a quelques-uns. Ça va, Sylvain ? C'est beau de voir que le Seigneur nous conduit. Et ce matin, on va parler de ce qui a déjà été parlé. On va faire des redites. Normalement, c'est mon dernier message avant ma petite pause, vous savez. Et en priant, ben je cherchais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage à l'Église ? Et j'ai eu à cœur voilà, un texte dans 1 Pierre 1 qui parle de l'Église. Et donc on va parler de l'Église ce matin. Henri a commencé par ça, il ne savait pas. Et vous allez voir que beaucoup de choses qui ont été déjà partagées vont se retrouver dans le message. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 1 Pierre 1. Merci Marie-Laure d'avoir fait l'introduction. On va aller un peu plus loin, mais on reste dans le même chapitre. C'est rigolo, hein, comment le Seigneur fait les choses. On va aller au verset 22 jusqu'au verset 25. Ça va, vous êtes réveillés ? Ah ! 1 Pierre 1, 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ce matin, je voudrais nous laisser une réflexion sur la communauté qu'est l'Église, son importance, sa place dans le plan de Dieu, ainsi que quelque chose de la vision que Dieu a pour elle. Bien sûr, on ne va pas traiter le sujet de manière exhaustive, mais on va parler quand même de grosses généralités. Avant de rentrer proprement dit dans le texte, je voudrais faire quelques rappels sur le sujet de l'Église. Et pour commencer, je voudrais vous poser la question. Qu'est-ce que l'Église pour vous ? Vous répondriez quoi ? Ce n'est pas une question piège. Hein ? Qu'est-ce que l'Église pour vous ? Une famille ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Osons. C'est quoi l'Église pour vous ? L'épouse de Christ ? La fiancée ? Nous tous ? Plus fort, vous savez, avec mon métier, je suis dur de la feuille maintenant. Pardon ? Un lieu de rassemblement, oui. Plein d'autres choses, je suis sûr, dans votre cœur. Ah, il y a eu d'autres réponses ? Une assemblée voulue par Dieu. Un lieu où se réunissent les frères et sœurs en Christ. Et tout ça, ce sont des bonnes réponses. On va brosser de manière générale qu'est-ce que la Bible dit de la commune de l'Église. On peut passer à la slide d'après. L'Église, avant tout, elle appartient à Dieu. C'est important de se le rappeler. Elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. On peut retrouver. Je vous donne que les références, Actes 20, 28, 1 Corinthiens 1, 2. L'Église est la maison de Dieu. 1 Timothée 3,15. Jésus est le chef suprême de l'Église. Éphésiens 1, 22. Jésus bâtit son Église. Matthieu 16, 18. Il la nourrit et en prend soin. Éphésiens 5, 29. Jésus en est la pierre principale, la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Éphésiens 5, 23. L'Église réunit les croyants de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Elle réunit le peuple juif et les païens. Éphésiens 2, 14 à 19. Au sein d'une même humanité nouvelle. Éphésiens 2, 15. L'Église fait des juifs et des païens qui croient en Jésus des concitoyens, c'est-à-dire personnes de même peuple, et des membres de la même famille qui appartiennent à Dieu. Éphésiens 2, 19. Et ça va ? Vous êtes toujours là ? L'Église, il y a beaucoup d'infos au début et après ça se structure. Et le lieu où Dieu ajoute et réunit les croyants en Jésus. Acte 2, 47. L'Église révèle la sagesse de Dieu. Éphésiens 3, 10. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, 15. Des anges sont donnés aux Églises. Apocalypse 2 et 3. Des responsables sont donnés aux églises, anciens diacres, etc. 1 Timothée 3. Des ministères sont donnés à l'Église pour son édification. Éphésiens 4. Attention à nos cœurs, parce que la Bible dit aussi que nous pouvons mépriser l'Église. 1 Corinthiens 11, 22. Et nous pouvons, ça a été lu ce matin, abandonner notre Église. Hébreux 10, 25. Mais l'Église s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, 21. Et c'est dans l'Église que le fer aiguise le fer et que tout, la route étroite de la sanctification et de la discipline s'emprunte. Par exemple, Matthieu 18, 17. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais ce que je veux nous faire réaliser là, dans cette introduction, c'est combien l'Église fait partie du plan de Dieu. L'Église n'est pas le plan B. Ça ne vient pas après. Et là, je vous parle avec mon cœur. Ça ne vient pas après. Après ma famille, après mon travail, après mes loisirs, après mon repos, après ce qu'on veut. L'Église est ma famille. L'Église est le lieu où je m'investis. C'est dans l'Église que je recherche les moments de joie, les moments de paix, les moments de repos. C'est là où je me ressource, je suis encouragé, je suis restauré, je suis transformé. Etc. L'Église, et ça a été déjà dit, c'est chacun de nous, mais pas chacun dans son coin. Ça, c'est pas l'Église. C'est chacun de nous rassemblé. Cette communauté qui rend un culte à Dieu, qui se sert et se soutient les uns les autres, et qui sert le monde en proclamant le salut et en exerçant la miséricorde. J'espère vous avoir convaincu avec cette introduction que oui, l'Église est importante. Amen. L'Église est importante. Revenons à notre texte de ce matin. Maëlle a fait l'introduction déjà. Elle a déjà développé le point. Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. On le chante de temps en temps, la sainteté est ce qui convient à sa maison, à la maison de Dieu. Alors qu'une communauté s'édifie, grandit, il est bon de regarder la place de la sanctification et de la purification dans l'Église. L'édification de l'Église commence par la sanctification qui seule peut la conduire sur le chemin de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4. Pierre, dans notre texte, va poser cela comme un fondement, un fait inévitable. Je ne peux pas faire l'anguille avec ça. Il ne dit pas « quand vous aurez », vous savez ce qu'on fait souvent dans nos vies, « quand j'aurai le temps », si on a le temps à consacrer à cela. Non, Pierre, il va dire « ayant purifié ». Vous avez remarqué ? Ça veut dire que c'est fait. Et c'est important. « Ayant purifié vos âmes ». Alors que nous allons redémarrer une nouvelle année, je veux nous réencourager ce matin. Poursuivons notre route sur le chemin de la sainteté. Et comme Hébreux 12, verset 1 dit, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte. Ne nous accommodons pas du péché, comme si c'était normal. Coucou. De vivre avec. Résistons, luttons avec Dieu, avec un frère, avec une sœur. Gardons toujours en tête cette citation qu'on a donnée plusieurs fois du prédicateur John Owen. Cet été, je vous ai encouragé à mettre des versets dans vos maisons. Celui-là, on pourrait essayer de le mettre, non ? C'est pas un verset, c'est une citation. Fais mourir le péché, ou c'est lui qui te fera mourir. Combien c'est profond. Fais mourir le péché, ou c'est lui qui te fera mourir. Le fruit du péché, son but, sa finalité, c'est toujours de détruire et de tuer quelque chose dans ta vie. Il n'y a pas d'autre but au péché. Il n'y aura pas d'autre fin au péché. Le laisser vivre et agir n'est pas sans conséquence. Est-ce que tu m'entends ? Oui, Farid, je t'entends. Non, parce que je me parle aussi. Comment ça marche ? Comment on marche sur ce chemin vers la sainteté ? Eh bien, Pierre nous dit « en obéissant à la vérité, ayant purifié nos âmes, en obéissant à la vérité. » Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » Jean 14, 6, « Jésus est la vérité. » Pierre nous rappelle ce matin que le seul moyen de permettre à notre communauté de se construire dans la sainteté, la seule arme que nous possédons, et nous n'avons pas d'autre, c'est l'obéissance à Jésus et à sa parole. C'est simple, hein ? Mais combien c'est important. Et combien parfois on ne le met pas en pratique dans nos vies. Nos pensées, nos vies sont remplies de concepts, d'idées, de façons de penser diverses. Et je crois qu'une des victoires du monde sur la pensée, c'est de faire croire à ce qu'on appelle le relativisme. Ça y est, je commence avec des gros mots. Le relativisme, pour faire simple, c'est qu'il n'existe pas une vérité, mais il y a des vérités qui peuvent varier suivant où on est, ce que l'on fait. Rien n'est grave, tout est question de point de vue. Et chez les chrétiens, ça se traduit souvent par « ouais, ça c'est ton interprétation, pas la mienne. » Ah, Est-ce que vous vous êtes retrouvé à dire ça quelquefois pour vous justifier? Pierre nous rappelle ce matin qu'il n'existe en réalité qu'une vérité. Il dit en obéissant à la vérité. Elle est au singulier. Cette vérité est dictée par la parole de Dieu. Elle s'interprète grâce à la révélation de Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, fait chair, qui lui seul peut nous révéler le Père, grâce au souffle du Saint-Esprit. Voilà comment on accède à la vérité. Et Pierre, dans la suite de sa lettre, va nous encourager à faire tous nos efforts pour renouveler nos pensées et sortir du système, à la fois d'excuses, qui va nous tenir dans le péché prisonnier. Oui, bien sûr, si je pêche aujourd'hui, c'est très certainement à cause de quelque chose de mon passé. Mais la réponse n'est pas de trouver une excuse ou de relativiser. C'est pas grave. Si je pêche, la réponse est « purifie ton âme en obéissant à la vérité ». Et n'oublie pas de sortir la poubelle. Pourquoi ce rappel, pourquoi c'est important dans le contexte de l'Église? Je marche sur le chemin de la sanctification, bien sûr pour Dieu en premier, pour moi-même aussi, parce que c'est ça qui va faire porter de bonnes choses dans ma vie. Mais pas que. Et la suite du verset nous le dit. Nous le faisons aussi pour nos frères et sœurs. Est-ce que vous aviez réalisé cela? Que l'appel que Dieu te lance de marcher sur le chemin de la sainteté, c'est aussi pour le frère et la sœur qui est assis à côté de toi. Pour, je vous avais dit pendant l'été, faites attention aux mots de liaison. Pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pierre ici fait le lien entre notre sanctification, nos efforts à avancer vers la pureté et l'amour. L'amour dans la communauté. Autrement dit, Pierre te dit, à toi en particulier, et nous dit, à nous ensemble, que notre péché a non seulement la capacité de détruire nos propres vies, ou celle de notre famille, mais aussi le péché a la capacité de détruire la vie de ton frère et de ta sœur. Waouh ! Il y a une responsabilité là. Parfois, quand nous n'avons pas envie ou la force de résister pour nous-mêmes, faisons-le par amour pour notre communauté. Et on a vu, on voit les mots que Pierre utilise dans la suite de ce verset. Pour un amour sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Et il rajoute, et, comme si ça ne suffisait pas, de tout votre cœur. Je crois que Pierre nous encourage à développer quelque chose de fort, pas juste des échanges de politesse. Pour nous aider à réfléchir, j'aimerais qu'on s'arrête et on s'interroge par rapport à notre amour pour l'Église, chacun d'entre nous. Est-ce que j'aime en parole? C'est déjà bien. C'est-à-dire, est-ce que je dis du bien de l'Église? Mais concrètement, je suis peu présent, je ne suis pas là. Je viens peu au culte ou aux diverses réunions, ou du moins de manière occasionnelle. Je ne suis pas investi, ou peut-être juste dans des petites choses comme ça. Je ne participe pas ou peu aux travaux, au ménage, etc. Je participe peut-être peu financièrement, ou de manière concrète à la vie de l'Église. En gros, j'aime bien l'Église. Là, je fais une blague de vieux, les jeunes, mais comme Alain. De loin, bravo. Pardon, c'est référence à un sketch. C'est nul, je sais, mais... J'aime bien l'Église, mais de loin. Et parfois, notre cœur, il est comme ça. En tout cas, pas notre cœur, mais notre vie. Je crois que Pierre nous encourage à un autre type d'amour. Un amour fraternel sincère. Il est fort ce mot, hein ? Sincère. Je voudrais prendre quelques minutes ce matin pour parler d'un mot grec, mais vous allez aimer le grec. Oikos, de l'oikos face à l'individualisme. L'idée derrière ça, c'est de nous faire réaliser combien on est influencé par la pensée du monde là-dedans. Dans nos sociétés occidentales, alors oikos, c'est un mot qui est simple, c'est la maison. Ça va ? La maison. Eh bien, elle est très fortement influencée. L'idée qu'on a, chacun de nous, de la maison, elle est très influencée par le monde. Je suis désolé de le dire, mais je crois que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est l'individualisme ? En sociologie, ça ne signifie pas simplement vivre pour soi ou être égoïste, c'est-à-dire tourné vers soi-même, mais ça désigne aussi le fait que les trajectoires de vie qu'on emprunte sont davantage construites à partir des choix individuels, plutôt qu'à partir d'institutions comme l'Église ou de normes collectives. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Ce n'est pas simplement le fait d'être centré sur soi, c'est aussi de prendre tous ses choix tout seul. C'est ça l'individualisme. Un deuxième petit mot que je définis, ce qu'on appelle le ménage dans les statistiques françaises. C'est ce que nous, on va appeler la maison. D'accord ? Comme ça, ça fait du lien, notre oikos. Vous savez comment elle est constituée majoritairement en France ? Ah, il a déjà mis les chiffres. Le ménage le plus, le nombre de ménages plus important, ce sont les personnes seules. Moi aussi, j'étais choqué. Bon, statistique 2022, mais ça doit être sensiblement la même chose aujourd'hui. 38,6%. En deuxième, les couples sans enfants, 25,7%. Après, les couples avec enfants et enfin les familles monoparentales. Qu'est-ce que ça, ces statistiques nous disent ? C'est que ma maison, mon oikos, c'est en premier moi. C'est moi. Tout tourne autour de moi. La deuxième maison, ce sont les couples sans enfants. Mais souvent, l'oikos, donc leur maison, va tourner autour de leur vie à juste tous les deux. Et encore, dans ce tous les deux, souvent, moi j'ai mon espace, toi tu as ton espace. De temps en temps, on a un espace en commun, la cuisine ou le truc de... Oui ? le moment de repas, mais il y a aussi cette habitude d'évoluer, de vivre, de prendre les décisions seul. Si on ajoute la troisième catégorie avec la famille monoparentale, on a presque 75% de personnes qui vivent une forme d'individualisme plus ou moins forte. C'est quelque chose de normal. Bien sûr, je ne suis pas en train d'accuser ou de culpabiliser qui que ce soit. D'accord ? C'est pas ça mon but. Je veux juste apporter des éléments de réflexion sur les influences qui orientent nos comportements à nous tous
aujourd'hui.
Il est évident que la constitution d'un foyer n'est pas toujours un choix. C'est parfois subi à cause de situations difficiles. Impossibilité d'avoir des enfants, départ, abandon d'un conjoint, etc. Mon propos, c'est de nous faire réaliser que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes influencés par l'individualisme dans notre manière de vivre et de penser. Je me rappelle que quand je suis allé en Mongolie, il y a quelques années maintenant, en 2001, je me suis demandé, mais comment font ces nomades ? On peut mettre la petite photo. Ils habitent une yourte. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer dedans. Une seule pièce. Une seule pièce qui fait fonction de chambre, de salon, de salle à manger, de cuisine. Bref, tout ce qui peut se vivre dans leur maison. Il y avait très peu de place pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'intimité, pour l'individualisme. Alors je vous rassure, j'ai pas de yourte à vendre à la fin du culte, vous les auriez vus en passant, mais j'aimerais nous poser quelques questions. Ça va, vous êtes toujours là ? N'avons-nous pas trop compartimenté nos maisons et donc nos vies ? N'avons-nous pas fait de l'intimité une excuse pour faire ce que nous avons envie en secret ? Avons-nous peur ou honte que quelqu'un regarde ce qui se passe dans les pièces de nos vies que je me suis réservées ? Celles-là, elles sont à moi. Est-ce que ce serait une bénédiction si l'Église devenait une yourte pour moi ? Le temps d'éloigner l'individualisme dans ma vie et de sincèrement vivre l'amour fraternel dans la communauté. Ce que je voudrais pour nous, c'est une réflexion ce matin et nous laisser toucher par ce que la Bible va dire de la maison, de l'oïkos. Et peut-être un changement va se produire dans nos cœurs pour vivre beaucoup plus en accord avec ce que la parole de Dieu nous propose de vivre. Dans la Bible, la maison est large. On est loin de l'individualisme. C'est le mari et la femme, avec les enfants, avec les générations, papy, mamie, petits-enfants, avec serviteurs, servantes, esclaves, ça vous rappelle les textes de la Bible, avec aussi des personnes dépendantes, les personnes handicapées, les personnes, les veuves. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Vous comprenez ? Le contexte biblique de la maison, c'est pas « je vis tout seul chez moi ». C'est étranger. Ce concept-là est vraiment étranger à l'Écriture. Et alors que vous allez replonger vos regards dans l'Écriture, ayez cette idée, cette image de la maison qui est large, qui vit quoi ? En communauté. Vivre en communauté, c'est bon. Et on en a besoin. On va parler un petit peu plus de ça. Et bien sûr, qu'est-ce qui fait partie de l'oïkos ? L'Église. Et oui, ta maison, dans ta maison, il y a l'Église. Parfois, j'entendais « oui, mais c'est ma famille au sens de la chair en premier, et puis après l'Église ». Mais ce n'est pas la vision de la Bible. C'est ta famille, oui, il ne faut pas la mettre de côté, bien sûr, hein, et on a vu tout ça. Mais est inclus l'Église. Parce que c'est ta famille. On va lire un peu dans l'Écriture. On peut passer à la slide d'après. 1 Timothée 3,15. La maison de Dieu, c'est qui est l'Église du Dieu vivant. La maison de Dieu, c'est l'Église, l'oikos de Dieu. 1 Pierre 2,5. Les croyants sont édifiés comme une oikos, une maison spirituelle. Hébreux 3, 4 à 6. Chaque maison, donc oikos, est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur son oikos à lui, sa maison. Et sa maison, son oikos, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alors que notre société contemporaine a réduit le noyau familial, a réduit la maison vers un individualisme fort, la Bible nous pousse à rouvrir nos maisons de manière beaucoup plus large. Elle nous pousse vers le soin de nos parents, vers le soin des personnes plus faibles, vers un élargissement de la notion familiale avec l'accueil dans sa propre famille de l'Église et en particulier de l'Église locale. Je vous ai toujours avec moi. Alors que le modèle du monde, c'est « moi, je choisis tout », on peut passer à la slide d'après. Je choisis tout, mon travail, le lieu où j'habite, mon partenaire, le choix de cohabiter ou non, le choix d'avoir des enfants ou non, le choix de rester ensemble ou de me séparer, etc. Je choisis tout pour ma vie. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. La Bible, elle va nous pousser ailleurs. Vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez que la Bible touche vos cœurs? Pas sûr. Si? Moi, j'ai envie, en tout cas. Alors, on va voir où elle nous amène, la Bible. C'est écrit en petit. Je n'appartiens plus à moi-même. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ah, quand même, il y en a qui disent amen. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. La deuxième chose que la Bible dit, c'est que, vu que j'appartiens à Dieu, je deviens enfant de Dieu, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Troisième chose, je deviens membre de sa maison, son oikos, Éphésiens 2, 19. Vous êtes concitoyenne des saints, gens de la maison de Dieu. Littéralement, appartenant à la maison de Dieu. Autre chose, l'Église est la maison de Dieu. On l'a déjà dit, hein? 1 Timothée 3,15, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Christ est le Fils sur cette maison et nous sommes sa maison. On vient de le lire, Hébreux 3, 6. Sa maison à Jésus, c'est nous. Nous sommes édifiés ensemble comme une maison spirituelle. 1 Pierre 2, 5. Les croyants sont édifiés comme une maison spirituelle. Nous devenons ainsi une nouvelle famille, la maison de la foi. J'ai beaucoup aimé cette expression dans Galates 6. Ainsi donc, comme nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. Pourquoi avoir pris le temps de reparler de la maison ce matin ? Mais car la maison, c'est le premier lieu où je vais et où je dois à la fois recevoir et donner de l'amour. Un amour sincère, un amour ardent, avec tout mon cœur. Est-il possible de changer ma façon de vivre aujourd'hui ? Une grande question, hein ? Dans la société dans laquelle je vis, avec des maisons où il y a tant de pièces et pas de yourtes. Oui, désolé, si vous espériez un non, c'est oui. Pourquoi ? Pierre continue et il va dire, puisque, oui, c'est possible de changer ça, puisque vous avez été régénérés. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Mes frères, mes sœurs, les sociétés évoluent. Elles changent. Elles vont nous pousser tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Devons-nous nous inquiéter, en avoir peur ? Non. En revanche, rappelons-nous qu'elles sont depuis le début sous l'influence du prince de ce monde, Satan. La pensée qui nous vient du monde, elle est influencée par le diable. Et que la semence qu'il produit, elle est corruptible, voire déjà corrompue. Si nous suivons ce que dit et ce que fait le monde, nous habiterons loin de Dieu, loin de son oikos. Et le péché règnera sur nous. J'aimerais qu'on en ait vraiment conscience. Mais la suite du verset nous dit que les plantes et les fleurs, les fruits de ce monde, qu'est-ce qu'il fait ? Ils sèchent et ils tombent. Et on a vu les sociétés monter, tomber, monter, tomber. Combien d'empires ? Seule la parole de Dieu demeure éternelle. Elle est la vérité en tout temps, en tout lieu. 1 Pierre 1, 25, on finit, je vous rassure. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. L'Évangile auquel nous avons répondu, chacun d'entre nous, ou si on ne l'a pas encore fait, eh bien c'est aujourd'hui, le jour du salut, où tu peux répondre à l'Évangile. L'évangile auquel les chrétiens ont répondu est un évangile qui nous prend, certes, tel que nous sommes, dans la situation où nous sommes. Et, il y a une suite, les amis, et qui nous transforme par la puissance du Saint-Esprit. Selon le modèle de la parole de Dieu, pour devenir jour après jour, plus comme Jésus-Christ. En répondant à l'appel de Dieu et en m'engageant à suivre Jésus, rappelez-vous le jour de votre baptême, vous avez dit oui. Mais vous avez dit oui à quoi ? Est-ce que vous en rappelez ? J'ai dit oui à une nouvelle identité, enfant de Dieu. J'ai dit oui à une nouvelle façon de vivre, pas selon mes voies, à une nouvelle famille, même ceux que je n'ai pas choisis, à une nouvelle gestion de mon temps, de mon argent, de mes sentiments. J'ai dit oui à ce que ce ne soit plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Amen. David, est-ce que je peux te redemander de reprendre la guitare? Je voudrais simplement qu'on prenne 2-3 minutes et qu'on finisse devant le Seigneur.